milliards de voisins, c'est maintenant.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle de la répression implacable en Iran contre les jeunes et leur résistance. 4 mois après la mort en détention de Mahsa Amini, 22 ans, arrêtée pour cause de foulard mal ajusté, la révolte a gagné l'ensemble de la société. Mais les plus déterminés, ce sont ces jeunes, étudiants, lycéens, traqués jusque dans les campus par les forces de sécurité. Vous savez, c'est cette génération 2000 qui n'a pas connu la révolution islamique, qui a inondé les réseaux avec ses cheveux au vent, ses arrachages de turbans de mollahs en pleine rue. Mais maintenant s'ajoutent les larmes de leurs parents sur les dépouilles de ses enfants et un climat d'effroi généralisé aussi dans l'opinion internationale. Une dizaine de personnes sont condamnées à mort, parmi elles 4 ont déjà été exécutées, sans compter les quelques 500 victimes dans les manifestations, majoritairement des victimes jeunes, très jeunes, à l'image de la démographie du pays, dont une 60aine d'enfants. Nous allons voir comment ce mouvement populaire joue sur l'usure des autorités, comment il s'organise aussi, comment s'organise la résistance malgré la répression avec nos invités. Bonjour Delphine Minouy.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous en direct. Vous êtes grand reporter au Figaro, vous êtes aujourd'hui correspondante à Istanbul en Turquie. Vous avez vécu près de 10 ans à Téhéran comme correspondante. Vous publiez aujourd'hui dans le Figaro 2 pleines pages sur les 4 mois de cette révolte qui ne faiblit pas. Et vous avez recueilli énormément de témoignages à distance, bien entendu. Vos livres sur l'Iran, parus il y a plusieurs années, avec quelque chose de prémonitoire. Il y a « Je vous écris de Téhéran » aux éditions du Seuil, « Les pintades à Téhéran sur la condition des femmes en Iran » où on voyait déjà ce profond désir de liberté des femmes qui étaient là, mais coincées dans les appartements, dans les maisons. Nous sommes aussi en liaison avec Sepide Farkonde. Bonjour Sepide.
Bonjour.
Vous êtes professeur de lettres et vous avez un doctorat à Sciences Po Paris sur la société civile en Iran. Vous êtes arrivé d'Iran à l'âge de 8 ans en France. Également en ligne avec nous, Shirin Ardakani. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes avocate en France, membre du collectif Iran Justice. Vous êtes actuellement à Strasbourg où va siéger dans un peu plus d'une heure, maintenant dans 2 heures, le Parlement européen. Dites-nous pourquoi.
Eh bien, pour les débats relatifs à la résolution qui viserait à inclure les gardiens de la Révolution au rang des entités terroristes.
Et bien sûr, vous nous parlerez du travail des avocats dans la documentation des exactions menées par le régime iranien.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Delphine Minouy, il faut qu'on commence par donner quelques chiffres un peu plus précis et donner corps aussi à toutes ces victimes de la répression iranienne, entre les jeunes, les étudiants, les lycéens qui sont tués lors des manifestations, qui sont arrêtés, qui sont emprisonnés. Quel est l'état des lieux de cette répression? Et est-ce qu'il y a un tournant avec une escalade de la violence depuis 4 mois?
On sent une véritable radicalisation de la part du pouvoir qui fait tout pour terroriser les manifestants, pour les intimider, pour les menacer, pour faire cesser ce mouvement qui est impressionnant, qui est inédit. Beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes dans les rues, des slogans très très forts. Mais la répression est d'autant plus féroce. En effet, on parle aujourd'hui de plus de 500 victimes, mais je suis certaine que c'est beaucoup plus conséquent. On parle de dizaines de milliers de blessés, sans compter les quelques 18 000 manifestants qui sont aujourd'hui dans des centres de détention sordides et les prisons également. Et puis, il faut savoir que cette répression, elle s'étend aux hôpitaux. Un blessé ne va plus à l'hôpital par peur d'être attrapé par les forces de sécurité. Donc tous ces blessés, ils sont soignés dans des maisons de façon très clandestine. Il y a des réseaux de médecins qui se tissent à travers le pays. Je suis en contact régulièrement avec ces médecins et parfois ils sont désespérés parce qu'ils sont obligés d'amputer des jeunes de 15-16 ans parce que ça s'est infecté et qu'ils n'ont pas pu aller se faire soigner dans de bonnes conditions.
C'est le cas et ça peut mener à la mort. Hein. C'est le cas de Ghazal Amiri, étudiante en dentaire, que vous citez d'ailleurs dans votre dossier du Figaro, frappée à coups de batte, qui n'a pas osé se rendre à l'hôpital de peur d'être arrêtée et qui est morte le lendemain. La liste, elle est très longue, mais elle apparaît au gré des reportages. Il y a Ghazal, qui est étudiante en droit, qui a perdu un œil lors d'une manifestation.
Oui, parce qu'il faut préciser que les forces de répression visent sciemment des parties très sensibles du corps, notamment chez les filles, les parties génitales, le visage. Et nous avons le cas de nombreuses filles qui ont été malheureusement éborguées.
Oui, ces jeunes vous envoient régulièrement d'ailleurs des photos de leur corps meurtri. Vous venez de m'en montrer juste avant le direct.
Oui, une jeune femme qui habite dans la ville de Shiraz, au sud de Téhéran, qui a reçu, parce qu'il tire au fusil de chasse, elle a reçu dans son corps exactement 240 éclats de tir de chevrotine. Alors un physiothérapeute qu'elle connaissait l'a aidée à retirer certains impacts, mais en l'occurrence, à l'heure actuelle, il y en a un qui est coincé au niveau du genou, près du tendon. Il est trop dangereux pour l'instant pour intervenir.
Ça veut dire qu'on a d'ores et déjà une génération de jeunes estropiés, blessés en tout cas dans leur corps, meurtris. Il y a deux exécutions qui devraient intervenir de manière imminente et qui suscitent une énorme mobilisation devant la prison où ils sont incarcérés. Hein. Ces garçons ont 19 ans et 22 ans. Toujours pour redire à quel point c'est la jeunesse qui paye le plus lourd tribut.
Oui, et souvent, donc à ce jour, il y a eu 4 exécutions. On parle de 500 jeunes dans le couloir de la mort et de à peu près 18 condamnations à mort qui auraient été prononcées. Ces jeunes, ce sont des étudiants, ce sont de jeunes travailleurs. L'un d'entre eux, je pense à lui particulièrement parce que il a ému la société civile iranienne, Mohammad Mehdi Karimi. C'était un champion de karaté. Ses parents étaient issus d'un milieu très modeste. Son papa était vendeur de mouchoirs à la sauvette. Quand il a appris derrière les barreaux qu'il allait être condamné, il a appelé son papa et au téléphone, il lui a dit « Je t'en supplie, ne le dis pas à maman ». Et cette phrase, elle est devenue virale et elle est taguée sur les murs de Téhéran, de Shiraz, de Mashhad, de Bandar Abbas, parce que c'est tout l'Iran aujourd'hui qui se sent concerné, au-delà même des réseaux sociaux qui nous parviennent, dont les messages nous parviennent aujourd'hui à l'étranger.
Shirin Ardakani, vous êtes avocate. Quel est à l'heure actuelle le travail de votre collectif d'avocats dans le monde, collectif d'ailleurs plus ou moins informel, pour documenter les exactions du régime, notamment à l'égard des enfants?
Alors, le premier travail, c'est de recenser la nature des exactions de ce régime qui, effectivement, cible les jeunes et a raison, puisque dans les manifestations, aux avant-gardes, on a une partie importante de la jeunesse. Alors, les exactions sont de deux ordres aujourd'hui. Il y a évidemment ce qu'on appelle les infanticides, c'est-à-dire les tirs. Alors, à balles réelles qui visent la foule, et donc, par incident, les jeunes qui peuvent s'y trouver. Et notre collectif, le travail, c'est de rassembler un certain nombre de témoignages, de vidéos, de rapports d'ONG qui se trouvent en poste pour pouvoir objectiviser l'étendue et la nature de ces exactions. Alors, je l'ai dit, infanticide, mais également condamnation à mort, parce que, effectivement, et ça a été dit, parmi les personnes aujourd'hui qui sont condamnées à mort par le régime iranien de chefs de corruption sur terre ou de guerre à l'encontre de Dieu, puisque ce sont les chefs qui permettent une condamnation à mort, il y a un nombre important de mineurs, pour commencer, ou de très jeunes gens. Alors, il y a par exemple 6 mineurs qui se trouvent aujourd'hui dans le couloir de la mort. Donc quand je dis mineurs, c'est-à-dire moins de 18 ans, hein, personne âgée moins de 18 ans. Et notre travail à nous, avocats, ça va être d'identifier ces mineurs et de pouvoir ensuite qualifier ces exactions d'atteinte aux droits de l'enfant, puisque l'Iran est signataire d'une convention de 89, la Convention internationale des droits de l'enfant, qui proscrit la condamnation à mort des mineurs âgés de moins de 18 ans. Donc c'est parfaitement illégal, c'est interdit par le droit international et évidemment l'Iran ne se tient même pas aux conventions qu'il a ratifiées et a signées.
Et cette collecte de preuves, elle n'est pas simple à distance hein, pour les avocats que vous êtes tous.
Alors, Alors, évidemment, c'est pas évident. Et le seul fait qu'on se constitue en collectif informel, c'est vous dire que les structures traditionnelles, c'est-à-dire notamment les commissions d'enquête des organisations internationales et notamment de l'ONU, ont le grand mal à accéder à ces informations. Je rappelle qu'il y a un rapporteur spécial sur les droits humains et qui travaille en particulier sur les droits de l'enfant, qui, depuis 3 ans, essaye d'accéder à des informations sur l'Iran, qui a fait une demande très solennelle aux autorités iraniennes pour pouvoir accéder au pays, c'est-à-dire se rendre sur place avec des observateurs internationaux. Et il y a une fin de non-recevoir, évidemment, qui lui est opposée de la part des autorités iraniennes. Donc, le travail qu'on fait me semble essentiel, mais avec les limites qui est que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens qui sont équivalents à ceux qui sont normalement prévus, ceux des organisations internationales, pour pouvoir documenter ces exactions.
Mais alors concrètement, sur quoi pourrait déboucher cette collecte de preuves ?
Alors, l'idée, c'est évidemment de traduire les auteurs des exactions devant les juridictions internationales, évidemment sur un temps long, puisque dans le cadre, par exemple, d'une saisine de la Cour pénale internationale, c'est un processus qui ne se fait pas immédiatement, et ça suppose le volontarisme des États qui sont partis à la Cour pénale internationale. Et là, ça excède le seul volet juridique, c'est une question de politique internationale.
On a parlé là des exactions, des arrestations, etc. Il faut parler des viols parce que ça aussi c'est un dossier sur lequel il est difficile de recueillir des preuves. Il y a eu le cas d'Armita Abbassi qui était arrêtée, hospitalisée pour une hémorragie du rectum à cause de viols répétés. Elle était en grève de la faim avec ses co-détenus pour protester contre leurs conditions de détention, mais aussi pour dénoncer les tortures subies comme le viol. Delphine Minoui. Il y a, ça y est, des enquêtes qui se montent aussi sur cette arme-là qui est quasi systématique ou pas à l'encontre des jeunes filles incarcérées à l'heure actuelle.
Alors, on a du mal à savoir, à estimer l'ampleur de cette arme aujourd'hui, le viol. D'autant plus que c'est un sujet très tabou. Pour beaucoup de jeunes femmes, c'est la double peine. C'est à la fois le viol, mais aussi la peur d'en parler aux familles, de peur d'être complètement exclue et marginalisée. D'après ce qu'on sait, moi j'ai parlé à des psychologues, j'ai parlé à des filles aussi qui ont des copines qui sont sorties de prison et qui les ont vues métamorphoser. Elles ne parlent plus, elles ont des pensées suicidaires, elles tremblent dès qu'on évoque la prison, elles se recroquevillent sur elles-mêmes, elles ne veulent pas montrer les parties de leur corps, même celles qui ont été tabassées, on va dire. Mais petit à petit, en effet, les voix se libèrent. Il y a des réseaux de confiance qui se tissent. J'appelle ça une sorte de fil des invisibles qui se met en place. Et donc, on arrive progressivement à recueillir certains témoignages de filles qui ont été harcelées sexuellement avec des attouchements, notamment à la poitrine, mais d'autres également qui auraient été littéralement violées. Parfois, les interrogateurs utilisent cette forme de pression, notamment avec leurs mains, pour extirper des aveux forcés. Et nous avons cette lettre très, très, très frappante, qui a été rédigée par Narges Mohammadi, une militante des droits de l'homme, elle aussi incarcérée dans la grande prison, la prison notoire d'Evin, à Téhéran, qui a fait sortir une lettre de prison à la fin du mois de décembre, que la chaîne BBC en farsi, en persan, a publiée, et dans laquelle elle témoigne, elle aussi, elle a parlé avec des filles qui lui racontent des cas de viol.
Sepideh Farkhondeh, est-ce que ce phénomène des viols fait partie, on va dire, de l'arsenal répressif, ou bien le viol a toujours existé en tant que système répressif, y compris depuis l'avènement de la République islamique ?
Oui, malheureusement, le viol n'est pas nouveau. Ça a existé depuis 1980. Le viol est utilisé comme une arme de dissuasion. Les jeunes filles, avant d'être pendues au début de la révolution islamique, étaient violées car les autorités considéraient que les vierges mortes pouvaient aller au paradis. Donc les très jeunes filles étaient pendues de 14-16 ans, étaient pendues en 1980-81-82. Et en fait, l'assise en fait de ce régime repose sur cette répression. Et effectivement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la parole se libère. Narges Mohammadi, dans sa lettre, détaille les témoignages qu'elle recueille en fait des nouvelles détenues qui arrivent en prison. Elle raconte par exemple que des jeunes femmes arrêtées dans les véhicules des forces répressives qui les emmènent en prison sont harcelées sexuellement, et qu'elle-même a été victime de harcèlement en 2019, et que maintenant, il est temps que la parole se libère, non pas pour que les gens soient terrifiés, parce que évidemment ça peut terrifier les familles, mais justement pour que l'impunité cesse.
Chérine Ardakani, quelle est à l'heure actuelle la possibilité pour les jeunes qui sont incarcérés de se défendre face à la justice ?
Alors, c'est vraiment une question qui s'applique plus largement, hein, pas que la question des jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'on a un système judiciaire aux ordres qui utilise une logique qui n'a rien de judiciaire, mais que ces condamnations à mort sont évidemment politiques et visent à donner un signal aux manifestants et plus largement aux plus jeunes. C'est de dire, attention, si vous allez manifester dans la rue et toute expression d'hostilité à l'encontre de ce régime est susceptible de se traduire par une arrestation arbitraire, des traitements inhumains et dégradants au rang desquels la torture, après l'extirpation d'aveux souvent forcés, et on a vu notamment que c'était le cas pour Majid Reza Ravarand, dont les aveux ont été publiés à la télévision d'État. Et par ailleurs, une fois que vous serez que votre peine de condamnation à mort sera confirmée par la Cour suprême iranienne, eh bien, on vous pendra au réverbère et à la grue. C'est le schéma systématique de la diplomatie de la mort et de la corde qui vise en réalité à désinciter les jeunes manifestants d'aller dans la rue. Alors, c'est évidemment des procès qui n'ont rien de judiciaire et qui sont des simulacres de procès.
Delphine Minoui, on sait qu'il y a des avocats qui sont extrêmement courageux, mais qui sont eux-mêmes du coup parfois victimes de la répression lorsqu'ils défendent des personnes accusées. Il n'y a pas de faille du côté des juges, il n'y a rien qui se craquelle encore.
Pour l'instant, rien ne transparaît du côté des juges. C'est la chape de plomb qui s'impose. Mais en effet, ce qui est terrible, c'est que les avocats, la plupart du temps, n'ont pas accès au dossier et se retrouvent parfois eux-mêmes derrière les barreaux. Je pense à Nasrin Soutoudeh qui a beaucoup défendu ses filles, mais depuis très longtemps, hein, c'est pas depuis le début de la révolte, et qui en paye régulièrement le prix fort, y compris son mari qui s'est à plusieurs reprises lui aussi retrouvé inquiété et qui s'est aussi retrouvé derrière les barreaux. Et ce qui est frappant aussi dans cette répression féroce, cette répression qui se radicalise de plus en plus, c'est aussi, je trouve, cette volonté de masquer ces exactions. C'est-à-dire que un protestataire récemment me disait « Aujourd'hui, l'Iran est devenu ce pays où même mort, on ne te laisse pas en paix ». C'est-à-dire que tous ces jeunes, je pense même à Mahsa Amini, dont on a voulu masquer l'origine de la mort, on a voulu faire croire qu'elle avait eu une crise cardiaque. Je pense aussi à Annika Shakarami, on a voulu faire croire qu'elle s'était suicidée.
Oui, à 16 ans. Hein.
Une jeune morte à 16 ans en pleine rue pour avoir osé retirer le voile et le brûler pendant une manifestation. Donc on masque tout ça, on veut faire croire qu'ils sont soit suicidés, soit ils sont tombés du toit de leur maison.
Avec des pressions sur la famille.
Avec des pression sur la famille, on veut leur faire croire qu'ils ont mangé, mais c'est parfois, ça frôle l'absurde, qu'ils ont mangé des boîtes de conserve périmées. Et les parents sont sous haute pression, l'entourage familial est sous haute pression.
Quand ils sont intimidés. N'est pas carrément le corps qui disparaît, pour éviter aussi
qu'il y ait une autopsie pour vérifier vraiment ce qui s'est passé. Récemment, je parlais avec les parents d'un jeune victime de la répression qui est mort à Shiraz. Il s'appelle Omid. Ses parents étaient tellement mis sous pression que le pouvoir a même voulu, dans son espèce de grande rhétorique de propagande, faire croire qu'il n'était pas protestataire, mais qu'il était milicien Basidji. et qu'il avait été tué par, je cite, « les émeutiers ». Donc, c'est aussi cette volonté de réécrire l'histoire en marche, de transformer le récit, de renforcer les chiffres des victimes du côté des forces de répression pour faire croire, en effet, à une situation où il y a des jeunes qui se rebellent parce qu'ils sont à la solde des États-Unis et d'Israël et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut faire taire le mouvement.
Ouais. Parmi les mineurs les plus jeunes, il y a Kian Pirfalak, 10 ans, hein, qui a été tué par balle le 16 novembre dernier. Il rêvait de devenir ingénieur. Son histoire aussi est devenue virale sur les réseaux sociaux.
Son histoire est glaçante parce que quand il est mort, sa mère l'a ramené son corps à la maison et elle a créé un linceul à partir de glaçons pour garder son corps, de peur qu'il soit emmené à la morgue et qu'il soit volé par les services de sécurité. Et ce qui est d'autant plus terrible, c'est que donc son père a été vraiment terriblement touché. Il s'est retrouvé hospitalisé pendant très longtemps. Et personne n'a osé lui dire que son fils était mort. Et récemment, cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. On voit le papa en larmes qui découvre, qui apprend la mort de son fils.
Et
10 ans.
Il y a aussi parmi Amnava, qui est une lycéenne de 14 ans, qui a été battue à mort le 25 octobre, alors qu'elle avait simplement déchiré de son manuel la photo de l'ayatollah Khomeini, qui est sur dans tous les manuels scolaires. Ça aussi, ça fait partie à l'heure actuelle de la résistance. Hein, et c'est pour ça d'ailleurs que les forces de sécurité inspectent les cartables des lycéens pour voir si cette photo est toujours dans les manuels scolaires. Un mot sur cette répression qui cible, alors certes elle touche tout le pays, mais elle cible en particulier certaines régions.
Oui, la répression est largement plus féroce dans les zones que j'appelle zones marginalisées. Je pense au Sistan-Baloutchistan, à la frontière avec l'Afghanistan et le Pakistan. Donc zone à minorité ethnique et minorité religieuse aussi, les sunnites. Tout comme le Kurdistan, près de la frontière irakienne. Ce sont des zones qu'on nous décrit comme étant, quand on parle aux personnes sur place, comme étant ultra militarisés. Les Kurdes me décrivent un quotidien où ils marchent dans la rue et ils vivent au rythme du vrombissement des drones et des hélicoptères qui rasent le ciel. Il y a un véritable système de surveillance parce que ce sont des zones aussi qui se rebellent très très régulièrement. Il y a des mouvements de grève, il y a des mouvements de protestation. Et c'est vrai que là, le régime n'hésite pas à déployer des chars, à organiser des rafles de maison en maison qui vont jusque dans les logis des médecins dont on parlait tout à l'heure. Il suffit que vous ayez aujourd'hui au Kurdistan dans votre coffre des bandages et du sérum physiologique et que vous passiez un checkpoint et qu'on vous arrête, et ben aujourd'hui ça c'est considéré comme un crime et on vous embarque directement en centre de détention.
Dans ces régions où les femmes sont pauvres, peu éduquées, ayant peu accès à l'université, néanmoins ce mot d'ordre, cette révolte femme, vie, liberté, les atteint également. Il y a quelque chose qui change aussi dans ces familles où elles racontent qu'elles vivent un double patriarcat, hein, le patriarcat du père, bien évidemment, mais aussi le patriarcat de la République islamique.
Quelque chose de très fort, d'après moi, est en train de se produire aujourd'hui en Iran. C'est que vraiment, le mur de la peur est tombé et que loin des grandes métropoles où l'on voit ces images de filles incroyables qui arrachent leurs voiles, qui se coupent les cheveux en public, qui brûlent leurs foulards, eh bien, dans des villages reculés comme les villages du Sistan-Baloutchistan, où les gens n'osent même pas sortir dans la rue pour manifester tant la répression est féroce, eh bien, derrière les maisons, derrière les foulards, il y a des femmes qui disent « Oui, à mon tour, je veux revendiquer le droit d'exister, de me réapproprier mon corps. » Et c'est ça. C'est ça qui a été déclenché par la mort de Mahsa Amini. Ça a vraiment été un véritable catalyseur. Mmh. Et récemment, je m'entretenais en effet avec une jeune Baloutche qui n'est pas éduquée parce que ses parents lui ont interdit d'aller à l'école et d'aller à l'université, qui porte le niqab, donc qui est couverte des pieds à la tête quand elle sort dans la rue, quand elle sort accompagnée, entendons bien. Et bien récemment, cette fille, elle a eu le courage. En voyant cette fronde initiée par toutes ses concitoyennes, elle a eu le courage d'aller voir sa cousine et de lui chuchoter à l'oreille ce qui lui était arrivé quand elle avait 10 ans, quelque chose qu'elle avait enterré toute sa vie, le viol par son cousin. qui était plus âgée qu'elle. Et pour la première fois, elle en a parlé. Un tabou a été brisé en elle, un tabou s'est fissuré. Et donc sa cousine l'a prise par la main et l'a emmenée chez la gynécologue. Et donc j'ai eu l'occasion de discuter avec cette fille, c'est la première fois qu'elle s'inscrivait sur WhatsApp. Ça a pris un temps fou
c'est
pour
ça,
pouvoir la convaincre.
Des témoignages convaincre. Très difficiles à obtenir,
très
bien
difficile.
Évidemment.
C'est un travail de titan. J'ai mis 2 mois pour pouvoir lui parler parce que j'ai pu accéder à une amie de la cousine qui m'a ensuite mis en contact avec cette jeune femme.
Et des témoignages que vous recueillez Delphine Minouy et qui s'ajoutent aussi au travail des avocats hein, dont vous faites partie du collectif Iran Justice, Shirine Ardakhani, pour documenter cette répression en vue de poursuites ultérieures, on l'espère. Merci infiniment à vous, Shirine Ardakhani, d'avoir été en ligne avec nous. On vous laisse au Parlement de Strasbourg. Quelles sont les conséquences de cette répression? Est-ce que le climat de peur généralisé freine la révolte, entretient la résistance des jeunes? On va en parler avec vous également, Sepide Farkhondé, dans quelques instants. Ce sera juste après la voix de cet artiste et activiste iranien, Toumaj Salehi, actuellement en prison, et vous me le confirmiez, Delphine Minouy, probablement dans les couloirs de la mort.
از کف میایم به راس هرم میزنیم شو میکنیم ببین چقدر دیدنی 44 سالتون سال شکست فجی اون روز همه دارید هم میپرید از کف میایم به راس هرم میزنیم شو میکنیم ببین چقدر دیدنی 44 سالتون سال شکست فجی اون روز همه دارید هم میپرید بگوام من فالگیرم تو قهوه نظام سار دیدم یه شیر داشت شغال شکار میکرد تو روز بود تعبیر خواب نی نه قهوه زدم براتون فنی باید تحمل کنید تلخیش همین اول کار شدیم تشبیه به فنجونی که تونل بکی چپ میشه میره شیرش مسما یکم سب کن نیت که کردی حالا بزن انگشت گوشه یه میزم بذاریم ورق و لازم میشه وقتی بشنوی همشو یه سخ میبینم وسط فال هم گارد ویژی هم طلبه هان یه دست با کت شلوار کروات یا وصله به اختلاس یا وصله به ران از لابیای اون ور آب روزنامه نگار و خبرنگار تا هنرمندای جیره بگیر با دادگاه شدن طرف حساب از بسیج بگیر تا اطلاعاتی از پایین بگیر و برس بالایی همه دارن میکنن تقلا قوقای شده مثل کارایی که آغازادار میکرد جدا رو اسمشون جاقا حروم میکوبید میپرسید دارایت از کجاست واسه یه برج چند تا جوون میکشید یکی میندازه گردن بقیه یکی چند تای شاهد خریده یه قاتل همراه یقینش هنوز دور گردنش چپیه اون طرف فال پر از شاکی اون ور صف دادخواهی یکی ظلمو تو خود دادگاه دیده چرا یکی از شاکی‌ها بازداشت میشه یکی جوونش و یکی جوونش و یکی قبل عدالت داشت تموم میشد موی آزادی که تو با تکون میخورد یه دل شجاع با یه زبون تون یکی بستن صداش که قلمش تو بند یکی دهنشو دوختن تا نخنده بلند یه نفر تجاوز شده بود بهش میگه تصویر داشتم ولی درنده بودن فنجون چه سیاه تهش پر از دروغ و ریا همه مربوط به گذشته تون ناراحتی چرا بیراه مگه فالتون پر از خون و خشم جسد پیر و جوون و بچه تاریک کل گذشته تون رژیمی که گرفته نور از چشم یه رود میبینم تو آینده اینجا رونق میبینم و سازندگی ملتی رو میبینم که شادن ببینین یکی صف شماست که بازنده این میبینم پول دیگه نداره زور سلاح نیست دیگه به صلاحتون هم دستگیر شدن مهره های ریز هم دستگیر شدن همه سرانتون حالا بردارون ورقو از گوشه پر کنن چند سطر توشه چی فهمیدی این بار از تو شعر واضح رب نبینم مختوشه خدا که نه شما چه پنهونیم بار جا شدیم همه تو فنجون شاید بخواد قهوه رو دستگیر کنه این برگر رو به رهبر برسون از کف میایم به راس هرم میزنیم شو میکنیم ببین چقدر دیدنه 44 سالتون سال شکست فجی اون روز همه دارید هم میپرید از کف میایم به راس هرم میزنیم شو میکنیم ببین چقدر دیدنه 44 سالتون سال شکست فجی اون روز همه دارید هم میپرید.
Vous écoutez 8 milliards de voisins, nous sommes en direct sur RFI et nous parlons de cette implacable répression qui s'abat sur les jeunes en Iran et pas seulement bien évidemment. Nous en discutons avec Delphine Minouy, grand reporter au Figaro qui a été près de 10 ans correspondante à Téhéran et également avec nous Sepideh Farkhondé, professeur de lettres qui a publié une thèse de doctorat à Sciences Po sur la société civile en Iran il y a plusieurs années. Justement Sepideh Farkhondé, on vient d'entendre la chanson Fahal de Toumaj Salehi, je le disais il y a quelques instants, qui est actuellement dans les couloirs de la mort, incarcéré en Iran, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi, pas seulement étudiants, lycéens, mais qui sont des activistes en tant qu'artistes, hein, des graffeurs, des musiciens, etc. Vous pouvez nous dire un mot des paroles de cette chanson, Sepideh ?
Alors, que ce soit Toumaj ou la chanson qui a été l'hymne, en fait, de cette révolution, sont des chansons qui dénoncent à la fois la situation écologique, environnementale, économique du pays, le sentiment d'enfermement. Et Donc, effectivement, en dehors des chanteurs, il y a aussi des écrivains qui sont emprisonnés. D'ailleurs, l'association des écrivains a fait une déclaration très tôt pour expliquer la révolte, étant donné que la censure les touche directement.
Concernant la résistance dans les universités, on ne l'a pas encore dit, mais l'Iran est un pays profondément éduqué, hein, près de 100% de taux de scolarisation. La République islamique a installé, à partir des années 90, énormément de campus universitaires, y compris dans des petites villes secondaires. Quand je dis petites villes secondaires, on est quand même dans un pays où 75% de la population vit en ville. Aujourd'hui, dans cet Iran éduqué, diplômé, et en même temps dans cet Iran où la moitié de la population a moins de 40 ans, qu'est-ce qu'on peut dire sur la résistance au sein des établissements scolaires et universitaires?
Ce qui est intéressant, c'est de remarquer qu'il y a une volonté vraiment des forces répressives d'entrer dans les lycées. Et malheureusement, il y a eu plusieurs collégiennes et lycéennes qui ont été victimes de ces forces répressives. Mais il y a aussi la résistance des proviseurs. Certains ont été arrêtés parce qu'ils n'ont pas voulu donner, par exemple, les images des vidéos de surveillance ou dénoncer les élèves qui avaient déchiré les photos, justement, de l'ayatollah Khomeini ou Khomeini, les fondateurs de la République islamique,
dans leur manuel
suprême, qui sont vraiment dans le culte de la personnalité. Donc, les mercenaires du régime, parfois en civil, attaquent les lycées, vont chercher les élèves qui ont déchiré les portraits de ces fondateurs de la République islamique, mais aussi celles et ceux qui refusent, par exemple, de chanter l'hymne à la gloire de ce guide suprême. On peut par exemple rappeler le sort de Asra Panahi, une jeune fille de 16 ans qui a été battue à mort parce qu'elle a simplement refusé de chanter l'hymne à la gloire de Khomeini et du général Rassem Soleimani, le chef de l'unité Al-Rots des gardiens de la révolution. Elle a été battue à mort aux abords de son lycée.
Ça veut dire que les établissements scolaires qui accueillent des mineurs, hein, Delphine Minoui, ne sont absolument pas sanctuarisés.
Bah aujourd'hui, tout peut arriver à tout moment, c'est vrai. Mais moi, ce qui me marque, c'est qu'en dépit de cette répression, la contestation se poursuit. C'est impressionnant, cette audace portée par une jeunesse. Alors, ce n'est pas nouveau, c'est vrai. En Iran, les jeunes et les femmes ont toujours été des moteurs du changement. Je me souviens, en 1997, quand j'étais à Téhéran, le réformiste à l'époque, Mohammad Reza Khatami, qui avait été élu comme président, il avait été plébiscité par ces groupes sociaux, les femmes et les jeunes. Maintenant, aujourd'hui, la vraie différence, je pense, c'est que autant la génération d'avant était une génération qui acceptait les compromis, qui a accepté cette idée d'une possible réforme, d'un possible renouvellement de la classe politique au sein même de la République islamique. Aujourd'hui, la nouvelle génération fait tout voler en éclats. Elle dit non au régime, non à un régime castrateur, non à un régime tueur d'enfants, c'est d'ailleurs un des slogans. Et c'est une génération qui n'accepte pas facilement ce qu'on lui dit, qui n'accepte pas les compromis, qui envoie tout balader. Et en effet, même si vous envoyez un nervi du régime dans un lycée, le lendemain, les jeunes, ils vont à nouveau arracher le portrait du guide suprême. Ils vont à nouveau aller écrire à la craie blanche sur le tableau noir ce magnifique slogan « Zan, Zendegi, Azadi ». Femme, vie, liberté. Et les lycéennes, on n'a jamais vu ça en Iran. Moi, j'ai parlé avec des instituteurs, avec des professeurs qui me disaient « Mais c'est incroyable !» Y compris des profs qui, en 1979, avaient fait la révolution à l'époque contre le Shah, qui avait ensuite été évidemment kidnappé par les religieux qui ont aujourd'hui le pouvoir. Mais ils me disaient « Nous, à notre époque, on écoutait ce que disaient nos parents et nos enseignants. Aujourd'hui, c'est nos élèves qui nous donnent des ordres, c'est nos élèves qui donnent le tempo. Et quand des élèves en pleine classe nous disent « on fait la grève parce qu'avant-hier, un de nos copains a été tué pendant les protestations », eh ben le prof, il peut rien dire. Alors évidemment, il n'osera pas, parce qu'il a peur pour son poste aussi, il n'osera pas haut et fort clamer qu'il est pour la révolte, mais en tout cas, tacitement, il va soutenir ces jeunes indirectement parce qu'il va dire aux élèves, bah, écoutez, ok, aujourd'hui, on ne va pas faire de mathématiques, on va discuter et on va parler de ce qui s'est passé. Et la parole, comme ça, se libère.
Alors, ça peut être effectivement dans les lycées. Il y a eu aussi le cas de l'université de technologie Sharif, hein, dont il faut parler, qui a été le fer de lance de la contestation dès le début, alors que c'est une université très élitiste. On était surtout habitué à être là pour bosser, pour réussir, voire pour ensuite gagner un campus américain, et pas du tout pour protester historiquement dans cette université.
Oui, l'université Sharif, par tradition, on a toujours comparé à l'école polytechnique. C'est la crème de la crème, et d'ailleurs, une grande partie des meilleurs étudiants partent pour suivre leurs études aux États-Unis, en Suisse ou en France. Et ces jeunes-là aussi ont voulu exprimer leur ras-le-bol. Ils se sont à leur tour mobilisés contre le pouvoir. Ils ont été pris à partie hein, dans les quelques premiers jours de la révolte. Il y a eu des exactions. À ce jour, on ne sait pas encore combien de jeunes ont été arrêtés, torturés, embêtés. Mais ça vous prouve en effet, encore une fois, que la répression, elle est là. Mais malgré tout, ce qui s'est passé, c'est qu'en d'autres temps, moi, c'est ce qui me marque aussi. J'ai couvert la révolution étudiantine de 1999, qui s'était passée à Téhéran. Le mouvement s'est vite tassé. Pourquoi ? Parce que les gens avaient peur, les bouches étaient muselées. Aujourd'hui, les paroles se libèrent. Et si aujourd'hui, vous attaquez l'université Sharif, le lendemain, c'est l'université de Shiraz, l'université de Mashhad, l'université même à Qom, dans la ville religieuse, les jeunes, par solidarité, se mobilisent et vont dénoncer à leur tour cette répression. Et il y a un geste très symbolique qu'ont organisé pas mal d'étudiants ces derniers temps, c'est que, vous savez, il y a aussi une sorte de ségrégation sexuelle qui s'impose dans les universités, notamment à la cantine. Vous avez la section des filles et la section des garçons. Et symboliquement, eh bien, dans certaines universités, les jeunes ont cassé cette espèce de mur d'enceinte pour imposer la mixité, et quand les profs leur disaient « non mais ça ne se fait pas », eh bien, ils sont passés au cran supérieur, ils sont allés déployer des nappes dans la cour et ils se sont rassemblés pour manger leur repas ensemble.
Ouais. Et tout cela malgré le verrouillage des réseaux sociaux, la surveillance accrue d'Internet. Alors certes, il y a les VPN, hein, qu'aujourd'hui les jeunes savent parfaitement installer, mais finalement, on a le sentiment que la répression est face à un mur, ne serait-ce que technique, hein, pour empêcher les jeunes de communiquer entre eux.
Ah oui, c'est des génies de l'informatique, notamment les jeunes iraniens. Hein, c'est la génération TikTok, Twitter, Instagram, etc. Mais ils savent très facilement casser les filtres. Les jeunes avec lesquels je discute régulièrement ont tous au moins entre 15 et 20 VPN qu'ils utilisent pour slalomer à travers les interdits, pour pouvoir continuer à parler, à échanger. Parfois, ils vont piquer du réseau aussi près des bâtiments officiels pour pouvoir se connecter à l'Internet. C'est toute l'ironie oui. du système. Et encore une fois, en marge de cette répression des manifestations, il y a une petite révolution invisible qui s'organise progressivement. Les gens se retrouvent sur les toits, au pied des immeubles, dans le métro. Mais ce qui se passe dans le métro, c'est incroyable. Les femmes, la plupart des femmes qui prennent le métro aujourd'hui, ne portent plus le voile. Elles chantent, elles reprennent des chansons révolutionnaires. Il y a un véritable réseau de solidarité qui se tisse à travers le pays. Il y a une fille qui me racontait que avec ses copines, elles impriment des petits papiers où elles les écrivent. Elles écrivent des slogans à la main et puis elles vont les caler sous les essuie-glaces. Il y a une fille récemment qui m'expliquait que par peur de manifester, une fille qu'elle connaissait, par audace, était allée accrocher son soutien-gorge à une branche d'arbre avec le slogan « Femme, vie, liberté » en dessous. Il y a aussi des gestes symboliques, des actes de défiance au quotidien, comme par exemple dans la ville religieuse hein, de Mashhad, où la grande avenue qui s'appelle Hijab, donc ça veut dire le foulard, a été symboliquement par des protestataires rebaptisée l'avenue Mahsa en référence à Mahsa Amini.
Voilà, très concrètement, hein, comment s'organise la résistance de cette jeune génération. Sépideh Farkhondeh, est-ce que vous diriez que cette jeune génération aussi, c'est une vraie réconciliation ségrégation entre les filles et les garçons, parce que plusieurs filles racontent que dans le métro, au départ, elles étaient tétanisées. Et puis en fait, il y a des hommes qui les ont encouragées à rester tête nue, notamment dans les transports en commun. Alors que pendant longtemps, finalement, les hommes ont profité aussi du fait que les femmes étaient des citoyennes de seconde zone pour rafler davantage les peu de jobs disponibles en Iran, alors que les femmes étaient plus diplômées que les hommes. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, dans cette nouvelle génération, cette génération 2000, il y a une forme de réconciliation ou pas, Sepide?
Ce qui est certain, c'est qu'il y a une solidarité. À Shiraz, par exemple, on a vu cette scène magnifique où les garçons disaient justement « femme, vie, liberté » et en réponse, les filles parlaient des hommes et de la prospérité. Donc, il y a eu un écho et aussi ce slogan où les garçons disaient « le pervers, c'est toi » en se tournant vers les mercenaires du régime, et les filles disaient « et la femme libre, c'est moi ». Donc, ce sont des slogans rimés, et il y a vraiment une vraie solidarité aussi devant les prisons le soir, quand ils se rassemblent pour essayer d'empêcher ces exécutions. On entend vraiment dans la voix la solidarité de ces jeunes hommes et des jeunes femmes qui crient ensemble « pour une personne que vous tuez, 1000 autres se lèvent pour vous résister ». Donc, on l'entend dans leur voix, on le voit effectivement au quotidien, l'entraide. Alors, ça ne veut pas dire que les choses vont se résoudre miraculeusement rapidement, que l'égalité s'instaure. Il faudrait déjà que la législation ne soit pas rétrograde comme elle est. Hein. C'est une législation qui est en arrière par rapport à la culture du pays. C'est-à-dire que la législation mise en place par le régime islamique est une législation extrêmement rétrograde.
Et déconnecté de la sociologie de la population, en fait. Où on a moins 1,6 enfants par femme, où on a un mode de vie qui est quand même très, très occidentalisé. Sepide Farkhondeh, vous le disiez dans votre dernier article paru dans la revue Études, pour vous, le régime est face à une triple impasse, notamment une impasse d'ordre générationnel.
Absolument, parce que finalement, les partisans du régime, c'est vraiment une classe sociale très vieillissante. Même, si vous voulez, les enfants des dignitaires du régime, il y a parmi eux des gens qui sont dans la contestation. Donc finalement, il y a une question de génération. Mais il y a aussi le fait que finalement, il ne recourt qu'à la répression. Les fuites qu'on a pu entendre, vous savez, les conversations des gardiens de la révolution et des forces répressives ont fuité à plusieurs reprises depuis le meurtre de Mahsa Amini. Et on a pu entendre finalement le fait qu'ils étaient un peu dans un désarroi. Et ils se disaient, mais comment ça se fait que c'est... Alors eux, ils appellent ça des agitateurs, évidemment, enfin, ces nouveaux révolutionnaires s'organisent dans le temps long. Et ça, c'est nouveau.
Delphine Minoui, si les manifestations, si la résistance de cette jeunesse, que rien ne semble arrêter, si cette résistance perdure, quel est le scénario probable? Parce que la situation économique du pays est absolument désastreuse à l'heure actuelle. Elle pourrait même empirer si de nouvelles sanctions internationales étaient votées. Alors, qu'est-ce qui peut se passer?
Je pense qu'on n'en est qu'au début du mouvement. On est dans une sorte de séquence révolutionnaire et tout le monde se pose la question, est-ce qu'à un moment donné, on va basculer ou pas dans la vraie révolution? Cette grogne, je pense qu'elle ne va qu'enfler. Puisque le régime le prouve, il ne répond pas aux demandes de la population. Au contraire, il utilise la répression. Et les protestataires eux-mêmes le disent. Plus vous nous réprimez, plus on continuera à descendre dans la rue. La misère sociale, en marge des protestations qui sont souvent d'ordre politique, la misère sociale, économique, s'installe de plus en plus. Donc ce mouvement, il va se poursuivre. Il va perdurer.
Mais sans chef de file.
Ça peut durer pendant des mois comme ça. Alors les jeunes eux-mêmes nous disent qu'ils ne veulent justement pas avoir de leader. Pour eux, c'est fini. Ils en voient tout balader. C'est-à-dire que l'époque du communisme, de l'islamisme, y compris du féminisme. Ils nous disent, nous, le féministe, c'est un mot qui ne nous dit rien. Nous, on est là, filles et garçons, ensemble dans la rue ou dans les lycées ou dans les universités, pour réclamer nos droits, point à la ligne.
Mmh. Mais c'est pas une impasse.
En tant que citoyen. Alors maintenant, c'est très difficile. Les mouvements sociaux réservent énormément de surprises. C'est difficile de deviner ce qui va se passer. Mais ce qui est clair en termes d'observation, c'est que ça pourrait basculer vers un mouvement plus large, le jour où la masse critique sera vraiment dans les rues. Pour l'instant, en effet, ce sont des mouvements sporadiques, ce sont aussi des mouvements de grève qui s'organisent de temps en temps dans les usines, chez les médecins, chez les profs, mais ce n'est pas généralisé à travers le pays. Je pense que ça pourra basculer le jour où ça se généralise, le jour où les parents de ces jeunes-là, ces parents qui ont peur, il faut le reconnaître, ces parents-là sortiront eux aussi à leur tour dans la rue, et aussi le jour où peut-être qu'il y aura une fissure au sein des forces de répression, les miliciens, les policiers, l'armée. Je garde toujours en tête, parce que j'ai suivi, bien évidemment c'est difficile de comparer, mais j'ai suivi les révolutions du printemps arabe, et je me souviendrai toujours qu'en Tunisie, quand j'y étais, Ben Ali est tombé le jour où l'armée s'est rangée du côté du peuple. Et le peuple, ses demandes, c'était exactement les mêmes que les demandes des Iraniens aujourd'hui.
Merci en tout cas à toutes les deux, Delphine Minoui, grand reporter au Figaro. Il faut lire les deux grandes pages du Figaro aujourd'hui sur ces quatre mois de révolte ou de révolution à voir. Et puis bien sûr vos livres. Je vous écris de Téhéran, Au seuil et les pintades à Téhéran. C'était publié chez, à l'époque,
aux éditions Jacob Duvernay.
Voilà, sur la condition des femmes, mais où il y avait déjà beaucoup de prémices, hein, des aspirations de la jeune génération. Merci aussi à vous, Sépide Farkondé, d'avoir été en duplex avec nous de Montpellier. Merci infiniment.
Merci.
Merci à vous.
On se quitte avec, bien sûr, la chanson qui est devenue l'hymne du soulèvement en Iran contre le régime des Mollahs, Baraye, qui a été interprétée, réinterprétée. C'est la chanson de Shervin Hajipour. Dans cette chanson, je vous le rappelle, il énumère les multiples raisons du désespoir du peuple iranien.
برای توی کوچه رخ سیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولی عصر و درختای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان افغانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعارهای تو خالی برای آوار خونه های پوشالی برای احساس آرامش برای خورشید پس از شبای طولانی برای غصای اعصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت پسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی
de voisins. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain entreprendre en Afrique avec, comme chaque mois, les conseils du coach Didier Akwété. Si vous êtes en train de lancer votre entreprise, si vous êtes jeune diplômé, c'est le moment de nous contacter sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Et en deuxième partie d'émission, comment financer la croissance des PME en Afrique subsaharienne. Merci à toute l'équipe qui prépare cette émission, Damien Roucou, Valentine Lemaire, Divine Bertou et Nicolas Benita à la technique. Dans quelques instants, le journal sur RFI.